Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hello les mamas, bienvenue dans le podcast qui parle de la maternité, la vraie. Celle qui épanouit, qui intrigue, qui fait peur. Celle qui bouleverse, qui construit, qui propulse en terre inconnue. Celle qui concerne tant de femmes que l'on entend si peu. Chaque semaine, l'une d'entre vous nous raconte son histoire sans filtre. Est-ce qu'elle a toujours rêvé de devenir mère? Comment s'est passée sa première grossesse? Quelles ont été les joies et les épreuves qu'elle a traversées? Qu'est-ce que la maternité a changé dans sa vie? Des histoires uniques qui nous rassemblent toutes. Alors, chères mamas, futures mamas ou pas mamas du tout, installez-vous confortablement et laissez-vous bouleverser par la maternité, la vraie. Élodie a toujours ressenti l'envie de devenir mère d'une famille nombreuse parce qu'elle n'a pas aimé être enfant unique pendant quelques années avant de voir débarquer dans sa fratrie des jumeaux. Son mari aussi a des jumeaux dans sa famille, alors ils se disent que ce serait drôle de perpétuer cette tradition familiale. Gagné. Dès la première grossesse, Élodie est enceinte d'une fille et d'un garçon. Ce qu'elle n'avait pas envisagé pour sa deuxième grossesse, c'est qu'elle attendrait à nouveau des jumeaux. Ces deux grossesses se passent bien, même si très surveillées, elle accouche par voie basse et les bébés naissent presque à terme. Sa maternité va évoluer entre les deux paires de jumeaux. Pour les premiers, Élodie s'épuise à vouloir tout bien faire, elle n'a pas une minute pour se doucher et apprend à devenir maman. À l'arrivée de ses deux autres jumeaux, elle comprend que le plus important, c'est de profiter des moments ensemble, même si tout n'est pas parfait. Alors, c'est dans un joyeux bordel qu'Élodie jongle aujourd'hui entre sa vie de maman, les montagnes russes de l'adolescence et sa carrière professionnelle très active. Dans cet épisode, elle nous raconte l'arrivée de ses bébés, la vie de maman quand on est une personnalité publique et son rapport au corps entre son élection de Miss France et la naissance de ses quatre merveilles. Bonne écoute!
Hello Elodie.
Mais coucou, comment ça va?
Très bien, et toi?
Bah ça va, je suis là, j'ai mon petit thé, je me pose.
Trop cool.
Je me dis que je vais faire une thérapie.
Il y a les mouchoirs,
je suis
si
là.
Besoin.
Voilà. Et tu vois, je vois que je suis sur un canapé, j'enlève mes baskets et je me mets tranquille.
Allongez-vous.
Ah, oui, j'ai besoin de parler.
Merci de nous raconter ton histoire dans Hello Mamas.
Mais avec plaisir, enfin mon histoire, je... Des fois, c'est dur de trouver les mots justement pour la raconter, mais
écoute,
c'est toujours, toujours du bien de papoter. Et
ouais.
Puis autrement qu'aux personnes auxquelles on a l'habitude de parler aussi, en fait.
Exactement.
C'est le côté psy, hein, c'est
ouais.
Ça.
Alors, on va revenir, toi, avant que tu deviennes maman plus jeune. Quel regard tu avais sur la maternité? Est-ce que tu as toujours voulu devenir mère? C'était quelque chose d'assez ancré jeune ou ça ne t'intéressait pas plus que ça?
Un peu des deux à la fois, c'est-à-dire que je me suis toujours projetée. Alors, est-ce que c'est inconsciemment par rapport, j'allais dire, à la société qui veut qu'une femme accomplie en grandissant devienne mère? Peut-être, j'en sais rien. Mais honnêtement, moi, j'ai toujours senti dans mes tripes l'envie de devenir mère.
Ouais.
Et de me dire que je ne m'accomplirais pas si je n'étais pas même à la tête d'une famille nombreuse.
Ah oui, tu voulais déjà être...
Ouais, parce que... le souvenir que j'ai, c'est que pendant 6 ans, j'ai été enfant unique. Parce qu'après, j'ai une petite sœur et un petit frère qui sont donc jumeaux.
Okay.
On a 6 ans d'écart. Et ça a été un bonheur incroyable de devenir grande sœur. Pour
ouais.
moi, c'est le plus beau souvenir de mon enfance. Parce que ça m'a marqué en plus d'être seule. Moi, ça m'a marqué d'être seule. Je voulais pas dormir, j'étais pas bien. Je m'ennuyais et je rêvais d'avoir des frères et sœurs. Donc de toute façon... Je me suis toujours imaginée avec plusieurs enfants en me disant que bah, y avait rien de plus beau quoi, dans la vie quotidienne.
Ouais.
Après, au fond de moi, je sais aussi qu'il y a un âge où je n'y ai pas pensé, ou moins pensé, ou plus pensé du tout même. Parce que dans ma vie sentimentale, je savais très bien que ou j'étais seule ou avec un mec que je ne voyais pas du tout comme pouvant
oui.
devenir potentiellement le père de mes enfants.
Ouais.
Donc le vrai déclic, il a été en rencontrant l'homme de ma vie. Il y a ça aussi.
C'était à quel âge?
Jeune, parce que je l'ai rencontré à 23 ans.
Ok.
Ouais. Et c'était vite parce qu'on s'est fiancés à 24, mariés à 25 et j'étais enceinte à 26.
D'accord. Ok. Vous aviez la même envie tous les deux.
C'était l'évidence.
C'est logique.
Ouais. Mais même lui, plus que moi encore, et plus rapidement, parce que lui, par exemple, passer par la case mariage, ça l'importait peu. Donc, ça a tout de suite été un sujet de conversation où il espérait pouvoir être père un jour. Donc, ça a toujours été comme une évidence, tu vois. Et puis, un côté un peu toujours comme un rêve aussi, parce que lui, son papa, a une sœur jumelle, et donc moi, ma sœur et mon frère. Et on s'est toujours dit que ce serait genre incroyable, magique de pouvoir avoir des jumeaux.
Ah ouais.
Donc c'est assez drôle, à la première écho, de découvrir que c'était des jumeaux. Tu te dis que c'était
fou, ouais.
J'ai même pas le mot, c'était pas magique, c'était pas dingue, c'est ce qui pouvait nous arriver de meilleur.
Ouais. Et t'es tombée enceinte assez facilement quand vous avez pris la décision de devenir parent?
Ça a mis un peu de temps.
Ouais.
Après, prendre la décision, c'est pareil, ça dépend aussi des couples. Il y en a où, effectivement, d'un coup, tu te mets dans ce processus-là en disant « il faut que ça marche, l'ovulation, le machin, les cycles, faire attention, préparer même ton alimentation en amont, etc. » Donc oui, on en parlait, mais je voulais pas que ça devienne...
Ouais, le seul
sujet de conversation. Et en plus, on restait quand même un jeune couple, jeune marié, etc. Je voulais pas non plus, même moi, si c'est ce que j'espérais le plus au monde, je voulais pas non plus, c'est un truc tout très pragmatique, mais même que nos relations sexuelles ne soient faites que dans cette optique-là.
Ouais.
Tu vois, il y a ça aussi, quand tu désires un enfant, ça peut être compliqué ça peut être un sujet ou qui solidifie ou qui peut un petit peu distendre le couple aussi. En tout cas, c'est sûr que dans tous les cas, si tu franchis ces étapes-là en couple, normalement, c'est que c'est assez solide, quoi.
Ouais. Et alors, tu découvres ta grossesse. Comment s'est passé ces 9 mois avec tes... Enfin, 9 mois, d'ailleurs, ça a peut-être été plus
Non, les
court,
jumeaux,
oui.
Ouais, le terme moyen, c'est 7 mois et demi, je crois.
Comment elle s'est passée, ta grossesse gémellaire?
La première grossesse s'est super bien passée parce que, justement, j'avais pas d'aîné. Donc, déjà, tu ne peux... Tu as la chance et l'occasion de ne penser qu'à toi et à tes bébés.
Ouais.
À prendre soin de toi, à essayer de te reposer, à écouter ton corps. Même si tu continues... Enfin, moi, je continue à travailler, mais à l'époque... C'était aussi par obligation, parce que j'étais libérale.
Okay.
Enfin, en tout cas, le statut. Donc, forcément, quand ton gynéco a 3 mois de grossesse veut te mettre en arrêt, tu lui expliques que t'as pas d'arrêt de travail possible.
Oui.
Enfin, ça n'existe pas. Donc, j'ai fait au mieux. Et puis après, bah, justement, tu fais des concessions. Et je me suis arrêtée au fur et à mesure. Et j'ai pris soin de moi. Ça s'est plutôt très bien passé, ce qu'ils sont nés à 8 mois et demi.
Okay.
Donc, très cool. Après, c'est vrai que c'était plus facile aussi. Parce qu'effectivement, si... à un moment donné, en ralentissant, tu te dis, bah, si je veux dormir, je dors encore. Je me lève à midi si j'ai envie. Mmh. Je peux m'allonger quand j'en ai envie. En essayant de jongler, en travaillant en grosso modo sur un mi-temps. Mais c'est vrai que ça, c'est une chance qui est loin d'être donnée à tout le monde. Mais en même temps, j'ai pas eu la chance, dans l'autre sens, de prendre un arrêt, de m'arrêter, de me reposer totalement. Donc, non, ça s'est très bien passé, ce que je...
T'as pas eu de mots particuliers, t'étais plutôt en forme, quoi.
J'étais plutôt en forme. Tu vois, la seule chose, c'est que ce sont des grossesses quand même très médicalisées, comme si j'aimais l'air. Donc t'as beaucoup d'examens et c'est assez anxiogène parce que tu te demandes toujours ce que va te réserver le prochain examen et que c'est quand même assez angoissant.
Ouais.
Suffisamment angoissant pour t'enlever la sérénité que tu pourrais avoir. Mais après... je me suis sentie bien entourée. Et en même temps, quand t'es enceinte, c'est paradoxal, mais tu te sens jamais aussi seule parce que t'es seule dans cet état-là et que c'est compliqué aussi d'accepter et les changements. Puis t'as quand même des mots à côté. J'ai pas de mots qui m'aient marqué plus que ça pendant la grossesse. C'est plutôt du dégoût de certaines... C'est tous les sens exacerbés, c'est ce qui m'a marqué. Le dégoût des odeurs, le dégoût de certains le dégoût de certaines choses.
Ouais.
Et puis, la frustration traditionnelle, mais de certains produits alimentaires, des sushis, etc. Et puis, plus que tout, de ne pas prendre l'apéro avec les potes, quoi.
Ouais.
En gros, c'est ça. Donc, tu vois, les mots sont plutôt relativement tranquilles. Non, ça a été.
Et c'était une césarienne pour ton accouchement ou pas du tout
Non, c'était voix basse.
Ok.
Ouais.
Est-ce que tu avais fait un projet de naissance?
Alors, je n'avais pas fait de projet de naissance parce que c'est un truc assez à la mode. Qui n'existait pas il y a 16 ans. Donc, surtout quand tu es en milieu hospitalier, suivi, généralement maternité de niveau 3 pour les jumeaux, etc. Ils sont pas trop axés sur... ils sont plutôt sur les examens multiples et tu préfères. Et il y a moins de temps de prix et certainement pas suffisamment de temps, ce que j'entends, pour te demander si tu veux de la musique ou un ballon, une baignoire ou une adresse pour accoucher avec des dauphins, quoi. Tu vois, on n'est pas dans le même délire. Non, mais c'est très à la mode et je le sais parce que d'autres me parlaient de certaines cliniques parisiennes, etc. Oui, tu peux avoir l'occasion de... d'accoucher comme ça, comme tu peux avoir un projet de naissance avec une sage-femme à domicile ou ce genre d'accouchement.
Ouais, pour des jumeaux, c'est plus délicat.
Pour des jumeaux, c'est même pas délicat. Je pense que ce serait totalement inconscient. C'est totalement inconscient. Et d'ailleurs, moi, je trouve que c'est assez inconscient de façon générale, pour être honnête. Parce qu'on a la chance de pouvoir être guidé, aidé, suivi médicalement, d'avoir du personnel... qualifié, d'avoir ce qu'il faut en cas de moindre souci. Et il y a des soucis qui ne peuvent se gérer que dans l'urgence. Alors même si tous les examens en amont sont bons, tu as quand même une marge probable qu'un imprévu arrive. Et c'est bien d'être chez soi, mais la réa, elle ne sera pas à domicile. Quoi. Donc, c'est un exemple.
Ouais, il faut être entouré par des professionnels.
Moi, je suis trop angoissée pour me projeter, même pour un accouchement qui s'annoncerait d'un seul enfant et tranquille, je serais trop angoissée pour le gérer comme ça avec autant de sérénité. Je préférais me dire, bon, bah, au cas où le bloc est prêt, au cas où il y a l'aréa et tout ça. C'est un peu comme l'histoire de la péridurale ou du masque pour calmer nos enfants s'ils se font recoudre. Ça existe pour calmer la douleur. Je suis pour pallier la douleur, quelle qu'elle soit et à quelque niveau que ce soit, parce qu'on a cette chance d'être suivi médicalement. Après, ça, c'est un avis que je dois certainement avoir d'autant plus exacerbé depuis que je suis ambassadrice de l'UNICEF. Parce que le fait de partir en mission et de voir des mères se battre pour que leurs enfants soient protégés par un vaccin, alors que ici, ce sont des polémiques pour tout et rien, mais parce que c'est des problèmes de gens qui ont accès à la médecine, finalement. Alors que là-bas, on meurt de déshydratation et on aimerait calmer les souffrances. Et ici, on se demande si on ne veut pas la jouer en mode zen. Donc, je trouve ça très paradoxal et tous les problèmes se relativisent. Et il n'y a pas d'échelle. Mais du coup, moi, en tout cas, mon regard perso, et c'est sans jugement aucun sur les autres, fait que je me dis ça existe, on a de la chance de vivre en France, d'avoir accès à l'éducation, à la santé... Je me dis que c'est une chance, voilà, et que c'est important d'en avoir conscience.
Donc toi, ça a été péridural, hospitalier, tout s'est bien passé.
Péridural, alors pareil, je n'ai pas le temps de me poser la question, parce que péridural pour des jumeaux, c'est obligatoire aussi. Okay. C'est obligatoire parce que, pour l'anecdote, c'est que pour mon deuxième accouchement, j'avais des contractions, mais je n'avais absolument pas mal. Enfin, absolument pas mal.
Ouais.
Quand je dis absolument pas mal, on va pas me la raconter non plus, mais comparé au souvenir de la première fois,
oui.
C'était largement gérable. Donc je dis que ça pouvait attendre et que j'avais pas besoin pour l'instant, mais ils me l'ont posé quand même. Parce que pour des jumeaux, c'est obligatoire parce qu'au moins, du coup, tout est prêt au cas où pour le bloc.
Okay.
Et que bah, c'est déjà en place. Mais sinon, oui, c'est vrai que pour des jumeaux, c'était... Je pense que ça fait partie des attractions quand même de pouvoir aller voir des jumeaux naître et en siège, et enfin par voie basse et en siège. Bah après, c'est magnifique, oui. Mais parce que quand je le dis, j'ai plein de copines qui ont accouché par césarienne et je ne veux pas le dire pour opposer tel ou tel mode d'accouchement parce que je sais combien ça peut être douloureux de ne pas avoir préparé psychologiquement un accouchement par césarienne et combien ça peut être un traumatisme.
Ouais.
Parce que combien aussi ont eu la réflexion de « vous n'avez pas accouché, c'est pas vous ». Enfin, des réflexions complètement déplacées. Et je trouve... c'est pas que je trouve, c'est que je sais que ça peut être douloureux. Donc je peux moi me sentir, je me suis sentie pleinement vivante et forcément fière, non pas de la voix basse, mais de mettre mes enfants au monde. Mais c'est pour ça que je veux le préciser, que ce soit par césarienne ou voix basse, je crois que le sentiment aurait été le même. Quoi. Ouais.
Donc là tu découvres un petit garçon et une petite fille?
Oui, exactement. Bon après je connaissais déjà les sexes.
Ouais, mais, vous aviez demandé.
On a hésité, mais on le savait, on l'avait gardé pour nous.
Ouais.
On s'est dit que c'était d'autant plus incroyable. Il y avait une petite frayeur du côté du papa d'avoir deux filles. Ah. Je pense qu'il se projetait déjà à l'adolescence en disant « Allez, deux à mettre au couvent pour que surtout il n'y ait pas de prétendants autour. » Ça devait être un truc un peu comme ça, tu vois. Il se projetait déjà, ça lui faisait peur. Bah, c'est magique. En plus, ils sont nés juste avant Noël. On a passé notre premier Noël à la maternité. Ça reste un des plus beaux Noël, enfin c'est même le plus beau Noël de ma vie, les deux habillés en petit pyjama de Noël, les copains qui passent t'amener un petit sapin lumineux, l'hôpital qui te met quand même un peu de foie gras dans le plateau là. Non, puis ce qui me marque moi c'est humainement, c'est les souvenirs de certaines sages-femmes, de certaines personnes.
T'as été bien entourée sur place.
Et ça c'est ce qui te marque toujours, même quand tu côtoies après milieu hospitalier pour d'autres raisons. C'est ce qui te marque, c'est la prise en charge, parce que tu sais combien c'est une chance, parce que en fonction du moment, des personnes et de l'intensité, on sait bien combien c'est très compliqué aujourd'hui pour eux de gérer, vu les moyens et le manque de reconnaissance, je le dis aussi, parce que pour moi, le milieu de la santé, c'est primordial. Je le dis certainement aussi, parce que ma meilleure amie est infirmière et beaucoup d'amis sont dans le paramédical. Mais si t'es pas passionné par ce que tu fais, t'abandonnes, parce que c'est impossible, quoi.
Et alors, ces premiers pas dans la vie de maman, de jumeaux, comment ça s'est passé? Est-ce que tu t'es sentie tout de suite à l'aise dans ton rôle de maman?
Il y a plein de sentiments différents. À l'aise, non, parce que t'apprends, tu sais pas exactement, même si t'essaies d'anticiper. Justement, t'as lu des trucs, tu t'es préparé, t'as demandé des conseils. Mais justement, t'as tellement l'impression qu'il faut tout appliquer au pied de la lettre pour être la parfaite maman que tu t'épuises.
Ouais.
Et c'est avec le temps que tu apprends à lâcher prise. Alors qu'à la base, pendant 3 ans, c'était débordé. C'est-à-dire, moi, je me souviens d'absence de douche pendant 3 ou 4 jours parce que tu n'as même pas 3 minutes pour prendre une douche.
Ouais.
Tu dors plus, tu peux même plus te laver, tu fais plus rien d'autre. En plus, je voulais allaiter, je donnais allaiter, mais la maternité m'avait conseillé de donner des compléments, donc je donnais un sein, un biberon, chaque repas est petit, je ne faisais que ça, quoi. Et encore, on a été beaucoup aidés, parce qu'on avait déménagé, mais notre maison n'était pas encore prête, donc on a passé 1 an chez mes parents, la première année de mes bébés. Donc ce qui était en même temps peut-être difficile, parce que forcément on envahissait mes parents, je retournais dans ma chambre d'ado et on était 4 d'un coup. Et en même temps, formidable, parce que ils ont grandi avec leurs grands-parents, avec ma sœur et mon frère qui vivaient encore là. J'avais de l'aide. Donc, même les moments où je me sentais perdue, je me souviens la première fois où je devais faire le bain des deux toute seule. Puis, il faut que j'en choisisse un, je commence par lequel, il faut que j'en abandonne un. C'est aussi le problème des jumeaux, c'est que tu peux pas être en fusionnel tout le temps avec un, et tu culpabilises énormément. Puis, je trouve qu'en fait, on nous fait culpabiliser tout le temps. Que soit les autres mères parfois, l'entourage, les voisins, les belles-mères, les mamans, je dis pas pour moi, mais globalement.
Ah oui.
Et je trouve que ça a évolué, parce qu'on est quand même dans plus de solidarité, sans se juger les unes les autres tout le temps sur « Ah ouais, toi t'as allaité combien de temps ? Et alors, il fait déjà de l'anglais, il a 3 ans, il parle couramment, et moi il est au conservatoire, et moi gna gna gna. » Et ce côté-là de... Et tu travailles trop, tu travailles pas assez, t'es apprêté pas assez, tu te laisses aller, ou t'es trop fusionnel, tu l'étouffes.
Ouais, ça va jamais, quoi.
Ça va jamais.
Ouais, bien sûr.
Si t'écoutes, ça ne va jamais. Et c'est vrai que je trouve qu'il faut du temps, en fait, pour apprendre à être parent. Mais à être le parent dont ton enfant a besoin.
Bah oui, parce que ça s'apprend chaque jour, de toute façon.
Toi, t'as un enfant, je serais pas une bonne mère pour lui, tu serais pas une bonne mère pour les miens. Ouais. Parce qu'on grandit avec eux et on s'adapte à leur personnalité, quoi.
Ouais, carrément.
C'est ce qui est chaud quand même chez moi, c'est que j'en ai 4 et 4 personnalités différentes. Donc je pense que psychologiquement, je suis pas super équilibrée en ce moment. Mais sinon, ça va.
Justement, alors, deuxième grossesse, combien de temps plus tard?
6 ans.
6 ans plus tard.
Ils ont 6 ans d'écart. Ouais. Donc, un peu moins de 6 ans d'écart même d'ailleurs. Donc, on va dire 5 ans après.
Comment vous avez réagi quand vous avez su que c'était à nouveau des jumeaux?
Tu vois, déjà, on a pris un petit peu notre temps quand même. Parce qu'effectivement, avec des jumeaux, sur les 3 premières années, déjà, ça nous a pas... C'est pas que ça nous a pas traversé l'esprit, c'est qu'on savait qu'on voudrait d'autres enfants. Mais là, tout de suite, c'était pas pensable.
Ouais.
Après, c'est vrai que mon mari voulait vraiment, il rêvait d'avoir une famille de 4 enfants.
Okay.
Mais moi, j'étais plutôt, alors non pas, c'est pas 4 enfants, mais c'était plutôt, c'est vrai que en projetant un petit peu, je m'imaginais avoir un enfant, je m'imaginais pas avoir des jumeaux à nouveau. Je m'imaginais justement un enfant unique sur cette grossesse, avec la relation exclusive que ça peut comporter, de l'allaiter tranquille, sans, tu vois, de le porter, d'avoir un truc exclusif. Et j'avais beaucoup moins la naïveté que j'avais à 26 ans pour ma première grossesse, parce qu'entre-temps, il y avait eu des deuils périnataux autour de moi, il y avait eu plein de difficultés, d'autres choses qui te font perdre ta naïveté et souffrir pour les autres. Donc déjà, apprendre que c'était à nouveau des jumeaux, Direct, c'est l'angoisse totale.
Ouais.
Parce que même situation professionnelle, donc il y a aussi ce côté où les gens n'ont pas conscience forcément de ce qu'implique mon travail, parce qu'on peut avoir l'illusion que c'est que je gagne des millions tous les mois, que j'ai toujours une stabilité, que là, encore une fois, j'étais encore en libéral, donc pas d'arrêt de travail. Qui dit pas d'arrêt de travail quand t'es en libéral, mais que tu t'arrêtes par obligation, puisque là j'ai été hospitalisée. Bon, bah, ceux qui sont dans cette situation savent que les aides accordées sont vraiment, vraiment très, très, très minimes.
Ouais.
Donc, il y avait cette conscience de ça, qui s'est d'ailleurs révélée exacte dans la réalité. Et puis, la conscience que médicalement, médicalement, je connaissais tout de A à Z sur tous les termes, et les risques de prématurité, les risques pendant la grossesse, etc. Donc, tu y vas quand même un peu moins la tête dans les nuages.
Ouais.
J'ai des jumeaux, c'est mon rêve, etc. Là, j'ai des jumeaux, mais j'y arriverai pas.
Ouais.
C'est un peu l'idée. Et je n'y arriverai pas. Et j'ai essayé de prendre soin de moi, mais c'est vrai aussi qu'on en parlait tout à l'heure. La grosse différence, c'est que j'avais des aînés. Et ils rentraient au CP. Ils allaient rentrer au CP. Parce que quand j'ai accouché, ils étaient au CP depuis un mois. Bah, tu peux pas. Tu dois être là pour tes enfants.
Ouais, tu peux moins te chouchouter.
Donc,
prendre soin de toi.
C'est pas la même. Et c'est vrai qu'ils sont rentrés au CP, j'étais à l'hôpital. Tu dis, les premiers devoirs de CP, tous les soirs, ils passaient, on faisait les devoirs dans la chambre d'hôpital.
Ouais.
Je peux prendre quand même ma douche ici, c'est rigolo, comme ça je reste avec maman. C'est compliqué parce que tu sais aussi que c'est perturbant pour... c'est perturbant de plus être les seuls. Alors d'habitude, on dit pour l'aîné, moi c'est deux aînés.
Ouais.
Mais c'est vrai que c'est des périodes aussi qui peuvent être... Il faut avoir conscience que c'est pas douloureux que pour toi qui porte la vie, quoi. Et du coup, c'est d'autant plus douloureux de prendre conscience de la douleur des autres et surtout de tes propres enfants. Donc, c'était très angoissant, en fait. Après, c'est fabuleux parce que tout s'est bien passé.
Ouais, tout s'est bien passé pour cette grossesse aussi.
Ouais, bon, même si t'es hospitalisée et tout ça, il y a eu forcément des soucis, hein. Enfin, forcément, non, pas pour tout le monde, heureusement. Mais ça s'est bien passé globalement, quoi.
Ouais. Et là aussi, accouchement par voie basse ?
Ouais, là aussi. C'est vrai que maintenant, on fait toujours une radio du bassin avant l'accouchement. Donc, sur ma première grossesse, ça montrait que c'était possible. Et puis là aussi, même si pour des jumeaux, ils prévoient toujours au cas où la naissance du premier. Et potentiellement, tu peux avoir le bloc pour le deuxième. Parce qu'une fois que le premier naît, le deuxième peut se mettre en transverse. Et s'il se met en transverse, de toute façon, il faut aller au bloc. Donc, tu vois, tout ça aussi... Après, les deux sont nés avec... Enfin, du coup, les quatre, même, avec des poids corrects pour des jumeaux. Et Joséphine et Léonard sont nés à 8 mois de grossesse. Donc, pour des jumeaux, c'est super. Enfin, ça allait. Mais c'est vrai que je suis restée un mois alitée où tu te lèves une fois tous les 3 jours pour aller prendre une douche et pipi vite fait. Donc, c'est dur psychologiquement aussi. Et c'est vrai qu'il y a ce côté où toutes les futures mamans que je connais ou que je vois ou mes amis et tout qui sont là à 7 mois et demi, 8 mois en disant « Ah, j'en peux plus, vivement qu'il arrive » et tout ça, ce que je conçois aussi parce que je sais très bien que tu peux plus te tourner, tu peux plus te baisser, tu peux plus rien faire, c'est l'enfer. Que moi, c'est une période où tous les matins, je me réveillais en disant « Putain, encore un jour de gagner, quoi. »
Ouais.
Et donc, ça va aller si je passe... ok, alors déjà, t'as les caps des 25 semaines, des 28, 29, 30, 32. Ok, c'est bon, 32. C'était pour moi le Graal, quoi. Ouais. D'atteindre 32 semaines, c'était le Graal, déjà. Donc, c'est aussi une autre conception de la grossesse où chaque jour est une victoire.
Ouais. Et donc là, maman de 2 paires de jumeaux, donc 4 enfants... Comment se passe le retour à la maison avec tes aînés, tes nouveaux
bébés ? Le début se passe super bien parce que justement, en fait, je me dis, en fait, là, ça va, on gère. C'est cool, je me pose, je donne le sein, j'étais pas stressée. Justement, tu te prends moins la tête. Alors, attends, est-ce que j'ai le bon, je sais même plus comment ça s'appelle, le bon produit pour, hydrater la maison, là, où tu mets du spray, le bon thermomètre, les bons cotons-tiges, l'huile d'amande douce, le machin, les bons produits, le bain, la température, le bon linge, les bonnes couches, tout, tout, tout. Je me suis rendu compte avec mes grands qu'il y a eu des périodes où on est parti à l'arrache sans avoir la bonne poussette, la chaise haute. J'avais même une fois oublié les couches. Et il n'y en avait même pas dans la boutique. Il n'y avait même pas de supermarché ouvert. On était en baie de Somme. J'ai juste pris conscience que mes enfants n'avaient pas besoin d'avoir la couche parfaite. Ils avaient juste besoin qu'on kiffe. Et donc, j'ai kiffé beaucoup plus.
Ouais.
parce que je me suis détachée de la pression que les autres voulaient me mettre. Vraiment. Après, pour les grands, ils étaient donc à peine entrés en CP. C'est que juste, je les ai fait accélérer certains apprentissages pour les autonomiser un peu plus.
Ouais.
Genre, ah si, si, tu vas apprendre tout de suite à faire tes lacets avant que j'accouche, tu vois, typiquement. La douche, maintenant, tu te débrouilles. Tes habits sont là, tu te prends un t-shirt, un pyjama, un slip, des chaussettes, tu files à la douche, tu te sèches tout seul, enfin, tu vois. Je me suis rendu compte que j'ai un peu plus couvé les derniers avec moins ce besoin de speeder, quoi. Après, c'est compliqué aussi, parce que chacun a une place différente, et quatre, ça prend beaucoup de place.
Ouais.
Et chacun a besoin aussi de solitude et d'indépendance. Après, c'est particulier, parce que les jumeaux, c'est aussi un couple. Il y a aussi, les relations sont différentes. Il y a les couples gémellaires, il y a entre eux où ils se comprennent de ce qu'implique être jumeau, combien de fois les réflexions, bah tu vas pas me saouler, il y a assez de place, on était bien à deux en même temps dans l'utérus de maman, ça va aller maintenant.
Ouais.
Je pense qu'il y a un lien qui se crée dès la vie utérine,
ouais.
Ça c'est certain. Et du coup c'est hyper fort. Après, entre eux, bah, ça, les caractères sont pas les mêmes. Ma grande, c'est une petite maman, elle est très maternelle, protectrice, elle s'occupe d'eux. Mon grand aurait plus besoin d'un espace à lui, seul, il a besoin de se retrouver, il aurait besoin de m'avoir des fois que pour lui.
Ouais.
Et quand t'as une famille nombreuse, ben ça c'est vrai que c'est super compliqué.
Ouais.
Tu vois, ça, je sais pas combien de temps que je dois emmener juste ma fille faire du shopping toute seule, ou mon fils, justement, on essaie de trouver une activité à faire ensemble et tout. Mais ça, quand, entre quatre enfants, enfin, voir un cinquième avec mon mec, et le boulot et tout ça, le week-end, tu peux pas avoir un moment pour chaque.
Ouais.
Ou, tu vois, c'est compliqué en fait. Rien n'est jamais idéal. On n'a pas, il y a pas assez de temps pour essayer d'être tout ce que tu voudrais être. C'est impossible.
Ouais, t'as pris du recul sur tout ça.
Mais oui, parce que sinon tu te fais bouffer.
Mais oui.
Complètement. Je sais là ce que je n'ai pas fait même chez moi de façon très concrète dans les tâches ménagères. Je sais très bien ce que j'ai pas fait pour le boulot. Je sais très bien ce que j'ai pas fait pour moi toute seule. Et je m'en veux parce que je sais que je me sentirais mieux, notamment là en ce moment, si je prenais un peu de temps pour moi. Mais c'est comme ça, et après c'est apprendre aussi à dire non à certaines choses du boulot. J'ai plutôt tendance à vouloir faire le max et à être consciencieuse, mais c'est vrai qu'il y a des choses maintenant que je refuse ou de trouver des compromis, tu vois, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas indispensables ou il y a d'autres solutions, parce qu'il faut aussi que je me préserve un minimum, quoi.
Ouais. Ça t'a mis une pression supplémentaire d'être médiatisée pendant ces grossesses, ça te met une pression supplémentaire d'être visible comme ça, au quotidien, sur ta gestion de la famille, de la maternité?
J'ai pas la sensation que ça me mette une pression, parce que ce que je vis véritablement, ou ce que l'on fait, bah c'est juste notre réalité à nous, et c'est notre vie, et elle est pas relayée, en fait.
Ouais, tu peux pas te retrouver dans un journal.
N'est relayée que ce que tu choisis.
Ouais.
Si, si, on s'est retrouvés dedans.
C'était en jogging, tu sors tes couches sales, on va te prendre en photo.
Ça, non, mais j'en étais sûre, et même si on a eu l'impression que non, parce qu'on a fait attention, c'est genre la sortie de maternité.
Ah ouais.
Là, tu sais que oui, et à chaque fois, il y a eu la couve, quoi. Il y a eu les photos. Et puis, on était en week-end avec mon chéri, j'étais enceinte de 2 mois, et il y a eu des photos disant que j'étais enceinte, alors que tout le monde ne le savait pas.
Ah ouais.
Il y a ça, mais après. Pour tout le reste, ça fait, c'est vraiment après des choix. C'est-à-dire que je sais très bien que certaines personnalités demandent à ce qu'on parle jamais des enfants, ne les montre pas, n'en parle pas, ne font rien, mais sont paparazzés.
Ouais.
Moi, je préfère faire le choix de montrer une partie de ma vie qui, d'ailleurs, n'est pas façonnée en fonction d'une image que je voudrais donner. C'est juste vraiment réel. Moi, je suis très sincère avec ce que je fais. C'est authentique, mais au moins je choisis.
Ouais.
Et par exemple, depuis toujours, on a toujours fait des photos avec gala. Exemple typique, avec gala. Que ce soit nos fiançailles, notre mariage, les grossesses, la présentation, entre guillemets, de nos enfants, etc. Parce que je préfère savoir quand on fait des photos, quelles photos, les choisir et faire quelque chose qui nous ressemble et dont on peut même être fier comme souvenir. Je veux pas qu'on me vole.
Ouais.
Et donc,
comme aux États-Unis, de toute façon.
Ouais,
c'est pas...
même ici.
Ouais.
Même ici, parce qu'en fait, j'ai pas la sensation. En fait, c'est parce que ça me dérange aussi ce côté cacher quelque chose. Bah écoute, si t'es une personnalité publique, t'as une activité, mais moi, dans ce que je fais, comme je suis moi-même, bah, si à ce moment-là, j'ai un gros ventre et que je suis enceinte, je vois pas. C'est moi, je veux pas le cacher, le fait d'être enceinte ou d'avoir. Tu vois, enfin, moi, la vie, elle est comme elle se présente et j'assume pleinement, quoi. Après, je peux comprendre en fonction des périodes de vie, puis des choses aussi qui sont douloureuses qu'on pourrait venir te voler.
Ouais.
C'est tout ça, c'est, en fait, il n'y a pas de recette magique. En revanche, du point de vue des enfants, d'ailleurs même pour les réseaux, c'est si eux le veulent. Et puis pour les médias, bah, je ne cache pas et je préfère prendre les devants. Mmh. Voilà, c'est les deux trucs où je trouve ça plus sain pour nous.
Ouais. Ils ont spéculé sur le fait que c'était grossesse naturelle ou pas dans les médias, ou vu que ce sont deux fois deux jumeaux.
Non, ça on me l'a demandé plein de fois.
En off ou les médias t'ont demandé?
On m'a déjà demandé, si on m'a déjà demandé. Mais ça par exemple c'est un sujet... Ou quand on me demande si on s'est fait accompagner, si on s'est fait aider, je réponds oui. Mais alors justement, je ne sais même plus par combien de personnes, parce qu'on fréquente les clubs échangistes tous les week-ends. Donc je ne sais même pas qui est le géniteur. Donc voilà ma réponse.
Ouais. Bon, alors tes enfants ont bien grandi, puisque maintenant tu as une paire d'ados.
Oui.
Donc c'est encore une autre...
16 ans, quoi, bientôt.
Ouais. Comment ça se passe?
C'est sûr que ça évolue énormément. J'avoue que moi, ça a évolué là, c'est sûr, même la dernière année. Honnêtement, le changement radical, c'était l'entrée au lycée.
Ouais. Là, ils sont en quoi? En première?
Ouais, en première.
Ah, okay.
Même si déjà, ça change énormément à partir de la quatrième, quoi.
Ok.
Ça change beaucoup parce qu'ils changent physiquement. Mm. Donc déjà, il faut leur laisser aussi leur cocon à eux pour mieux s'apprivoiser. Et puis, en fonction de leurs humeurs et tout ça, en fait, je trouve vraiment que ce sont des montagnes russes, quoi.
Ouais.
C'est que c'est pas un changement et puis t'évolues doucement, c'est que c'est dans les extrêmes très souvent.
Mm.
C'est un rejet et puis un besoin de s'isoler, et je veux pas de câlin, je veux pas de machin et ça ne va pas. Et puis ça revient avec un besoin d'affection ou de communiquer. Et puis il y a un problème extérieur, donc rien ne va. Et puis ça fluctue énormément, donc c'est beaucoup plus fatigant parce qu'il faut être à l'écoute de ses enfants tout le temps.
Ouais.
Chose impossible, c'est-à-dire que tu peux pas être tout le temps à l'écoute, savoir s'il y a besoin, machin, mais d'avoir en tout cas une oreille attentive. Mais après, je trouve que c'est le pire en tant que parent, et moi je t'ai pas préparée, mais alors du tout à ça. C'est que, tu vois, c'est même mon poste d'hier, petit, au moins tu sais où ils sont.
Oui.
Alors c'était une photo enceinte, je veux dire, même tout petit, t'as un parc.
J'y pense souvent à ça.
Mais ouais, oui. Ils sont dans un parc, ils sont, tu mets deux trucs et tu les vois, ils sont sur leur truc en train de danser, le trotteur, assis par terre, les cubes, les machins. Déjà, il y a le cap de l'école, où il y a une partie de la journée dont t'as pas conscience, parce qu'en plus ils racontent pas tout, et puis t'as toujours peur aussi qu'ils se soient fait mal, qu'il y a un gamin qui les harcèle, parce que même en petite section maternelle, tu peux te faire mordre tout au long de la journée, bref. Donc t'as peur tout le temps. Mais ça, plus ça grandit et pire c'est. C'est-à-dire que moi, j'ai des fois des moments, des bouffées d'angoisse qui me bouffent la vie. Et ça, je suis pas préparée à ça, parce que devenir parent, t'as peur tout le temps pour eux. Et plus ils grandissent, et plus t'as peur. Là, on est passé en mode conduite accompagnée. Bah, aussi, ce que ça me rassure. Pendant 2 ans, ils vont être avec moi. Là, je leur dis, ils apprennent à mieux conduire. Je trouve ça génial. Je peux même pas imaginer les premières fois ils vont prendre la bagnole seuls. Mais moi, je vais mourir. Quand ils vont partir, je dis ça, c'est assez étrange maintenant de ma part, parce que je me projette jamais. Mais là, je le vois au quotidien. Bah, les premières soirées ou machin, c'est un truc, déjà, je ne veux pas qu'ils soient seuls. Donc, c'est l'avantage, déjà, d'être jumeaux, c'est qu'ils ne sont jamais seuls.
Ça, c'est top.
Petit, je le disais, première fois chez la nounou, à la crèche, à l'école, les copains, machin, les mêmes copains, parce qu'ils ont évidemment les mêmes meilleurs amis. Mais même là, c'est-à-dire de sortir ce que tu n'as pas à la cantine, bouffer un truc, ou à la sortie, aller chercher un chocolat, manger, sortir avec des potes, le ciné, c'est juste ne jamais être seul. Mais toutes ces sorties-là, heureusement qu'il y a les portables. Moi, partout où ils bougent, je suis arrivée, je pars, je suis là, tu peux venir me chercher. Il n'y a pas de prof, il n'y a pas de machin. Mais je ne sais pas comment faisaient nos parents avant, quand il n'y avait pas de portable.
C'était plus smooth.
Ah non, mais ça, c'est un truc, les angoisses. Et des fois, j'essaie même, parce que j'ai gardé le rythme avec la matinale radio, je suis toujours fatiguée en début d'après-midi, bon, comme tout de suite maintenant. Et quand je peux, j'essaie de faire une micro-sieste, mais c'est quasiment... C'est à chaque fois où je commence par avoir une idée qui me traverse l'esprit et ça me bloque complet parce que c'est forcément lié aux enfants et forcément bourré d'angoisse, des angoisses qui vont avec.
Ouais.
Avoir peur pour eux tout le temps, c'est l'enfer. Après, la vérité, c'est qu'ils n'ont pas grandi non plus dans un monde, dans le monde dans lequel je rêvais pour eux, quoi. C'est pas le monde auquel je rêvais. C'est-à-dire que moi, les grands, ils sont allés à l'école primaire en faisant des exercices alerte à Tintin, en se cachant sous les tables. Ouais. Ils avaient le masque pendant 2 ans à l'adolescence, et l'Ukraine, et l'éco-anxiété, et le monde de là. Nos gamins, ils se demandent quel monde, ce qu'ils vont faire. Donc quand on leur prend la tête, surtout leur métier, les spécialités, les trucs, ils se disent juste, bah, si déjà j'arrive à kiffer dans mon boulot, à faire un truc qui me plaît, sans que ça devienne toute ma vie, à ne profiter de rien, ce sera déjà bien. Mmh. Et je ne les contredis pas, je suis totalement d'accord avec eux.
Ouais. D'ailleurs, tu as écrit un livre là, qui vient de sortir, qui s'appelle Mams. Que j'ai feuilleté et bouquiné, qui peut être gentil. Lu d'ailleurs par des ados, parce qu'il y a pas mal de messages très sympas, je trouve, à faire passer directement
c'est vrai aux que c'était, ados. C'est aussi pour ça que c'est une bande dessinée, parce que je voulais vraiment parler de ces sujets, alors les sujets très concrètement, justement de la pornographie pour nos adolescents, des réseaux sociaux, du harcèlement. Ouais. De l'éco-anxiété, tout ça. Et la BD permet justement d'utiliser tous les termes, de ne pas avoir peur, justement, d'aller trop loin, ou d'être vulgaire, ou de déranger, parce que ça reste léger, et ça permet plus facilement de parler de tous ces sujets-là. Donc c'est pour ça que je rêvais de faire une BD.
Ouais.
C'était pour que la BD serve des causes aussi sérieuses et difficiles à aborder.
Et donc, c'est plein d'humour. Il y a aussi des conseils d'experts à chaque fin de chapitre.
C'était le but, parce que ce soit drôle, mais que derrière, ça puisse être utile.
Ouais.
Notamment d'avoir des outils pour les réseaux sociaux pour nos gamins, ou d'avoir un infectiologue concernant le papillomavirus, enfin la vaccination HPV, ou d'avoir un regard, tout simplement, non pas parce que je ne suis pas légitime, parce que ça, c'est la réalité, je ne suis pas légitime sur des sujets aussi importants, mais d'avoir l'appui de professionnels, je me suis dit qu'on pouvait en rire et que derrière, certains pouvaient piocher des outils et des conseils s'il y avait besoin, venant de pros, et pas de mon regard de maman qui n'aurait aucune utilité à ce sujet. Le mien, il est dans la légèreté de la vraie vie.
Oui, et justement, le papillomavirus, moi, j'ai appris qu'il fallait faire vacciner aussi les petits garçons.
Mais c'est le cas, c'est parce que moi, en fait, ils sont donc vaccinés ma fille depuis un petit moment, parce que maintenant, il y a une campagne d'ailleurs de com', je crois que ça concerne les élèves de 5e.
Ok.
Ma fille, c'est parce que on s'était renseigné et notre pédiatre à l'époque nous en avait parlé, mais que pour ma fille, alors qu'ils sont jumeaux filles-garçons. Et que du coup, j'ai dit, mais c'est génial, ça protège de tout, c'est super. Ah oui, je veux le faire, évidemment, je lui demande. Et c'est derrière, c'est effectivement comme décrit dans la BD, mon fils qui me dit, bah pourquoi par moi ? Parce que j'ai regardé les cancers, gorge, anus, côlon. Enfin, ça protège.
Concerné.
Exactement. Et on n'en parlait pas du tout, parce que de l'âge de mes enfants, justement, ils en ont parlé autour d'eux. Très peu d'enfants sont vaccinés. Ouais. Très, très peu. Alors que tu dis, c'est pareil, ça devrait même pas être un sujet polémique. On a trouvé un truc, un vaccin qui protège nos enfants des cancers. Quand autour de nous, notamment dans cette période d'octobre rose, on connaît tout quelqu'un touché par le cancer du sein, et on va se prendre la tête alors qu'on peut protéger nos enfants. Bah, moi, je fonce direct, en fait. Bien sûr que je fais vacciner mes enfants, mais bien sûr pour les protéger.
Et tu parles aussi de ta vie à toi, en tant que femme, personnalité publique aussi. Il y a notamment un moment où c'est avec ton fils aussi, où il parle d'un groupe WhatsApp.
Ah oui.
Où il y a un début d'harcèlement, de rumeurs. Et donc, toi, tu prends ton expérience où il y avait eu des rumeurs sur toi quand t'étais à Miss Univers.
Mais il
n'y
avait pas les réseaux sociaux.
Donc, chance pour toi. Ouais. Parce que sinon, ça aurait été fois un million.
Je pense que je ne sais même pas.
Mais cette expérience te permet aujourd'hui de transmettre aussi des choses à tes enfants, notamment via les réseaux sociaux.
En tout cas, cette expérience-là, effectivement, j'en tire quand même des bénéfices, des apprentissages et peut-être des choses à transmettre par rapport déjà à la douleur que ça a été psychologiquement. Mais d'expliquer que même avec peut-être parfois un peu d'humour et machin, la limite est facilement franchissable de la blessure qu'on peut prodiguer à quelqu'un, qu'on peut vraiment fragiliser, on peut cibler une personne, même en rigolant à la base et tout ça, faire très attention au harcèlement avec l'effet de groupe, parce qu'ils communiquent via groupe sur Snap ou WhatsApp. Donc faire très attention à ça, et d'expliquer aussi, du coup, ma propre expérience, parce que j'ai pris conscience aussi, peut-être qu'il y a une évolution, ça, avec les générations, de parler plus facilement de tout. Alors moi, c'est vrai que même avec mes grands, en plus, ils vont avoir 16 ans, ça fait déjà quelques temps, où on parle facilement de tous les sujets, on n'a pas de tabou, quoi. Vraiment.
Comment t'as mis ça en place ?
Au début, ils étaient très dérangés qu'on aborde certains sujets.
Genre la sexualité.
La sexualité, typiquement. Dès qu'il y avait un film, un bisou, même un bisou, un machin, c'était... il fallait se cacher. C'était eux, quoi. Hein.
Ouais.
Ou aborder le sujet. Alors que eux posaient la question bête. Je sais pas, typiquement, comment on fait les bébés. Je vais pas... Moi, je leur ai jamais menti. Je vais pas leur répondre. La cigogne, le chou, la rose ou je ne sais quoi. Mmh. Donc, bah, t'expliques de base très softement...
Imagine, ouais.
Il faut une graine de papa, une graine de maman, patati patata. Et puis après, tu l'expliques. Donc, c'est en fait juste d'avoir toujours dit la vérité, mais les mots adaptés à l'âge.
Ouais.
Ça, déjà. Après, j'ai pas de recette miracle parce que moi, je me souviens que très souvent, ils étaient très gênés par la discussion. Mais si tu poses une question, bah, il faut savoir écouter la réponse. De dire comment on peut... Est-ce que c'est vrai qu'on peut choisir d'avoir un enfant ? Tu vois, par exemple, typiquement, il y avait la question. Oui, bien sûr, t'es toujours libre à disposer de ton corps, ma chérie. Tu auras toujours cette liberté-là. On fera en sorte que cette liberté te soit toujours, elle soit toujours acquise. Mais tu peux faire l'amour autrement que pour faire un enfant. Parce que c'était aussi la question d'est-ce qu'on fait l'amour que pour avoir un enfant. Parce que dans le livre, d'ailleurs, on le voit, j'avais une réflexion de mon fils qui dit « Vous avez eu deux fois des jumeaux, donc vous n'avez fait que deux fois l'amour.
»
Donc typiquement d'expliquer que tu peux faire l'amour autrement et quand on s'aime ça se passe comme ça, mais que, par exemple, parce que c'est pour en venir à la contraception, j'avais expliqué, non, tu peux aussi choisir, parce que tu peux, il y a plusieurs solutions aussi, et on en vient au préservatif en disant, et puis en devenant jeune c'est le mieux parce que ça te protège des maladies sexuellement transmissibles, etc. Ah c'est dégoûtant, je veux pas parler de ça, tu demandes, c'est une façon de se protéger, tu veux pas l'entendre maintenant, mais au moins tu sais qu'il y a ça qui existe, ça s'appelle le préservatif, c'est indispensable, je m'en moque que tu veuilles pas l'entendre, tu l'as quand même entendu, on en reparlera plus tard.
Ouais.
Donc peut-être que j'ai parfois forcé, mais je trouve indispensable plutôt que la situation inverse où t'as 18 ans, des relations sexuelles et personne t'a jamais parlé de la pilule et t'es pas allé chez le gynéco, tu vois. Donc vaut mieux ça, en fait.
Et alors comment ça se passe la relation entre les deux paires de jumeaux ?
Ah, bah ça dépend des périodes, quoi.
Ouais.
Ça dépend entre... Rose, elle est très maternelle, elle s'en occupe. C'est par période, ça va être la guerre, comme l'osmose complète... Ils peuvent trouver des terrains d'entente. Après, on fait quasiment toujours tout, tous les six. Donc, en activité, on va sortir ensemble. Je ne vais pas être du genre à aller laisser une babysitter ou à quelqu'un. Tu vois, moi, le côté un mariage prévu, mais c'est mieux sans les enfants, bah, écoutez, on ne viendra pas. Parce que nous, on est une famille, quoi, en fait, tu vois. Donc, on est plutôt à être très, très tribu.
Ouais.
Très clan.
Il y a des battles entre les deux, deux paires de jumeaux.
Ouais, il y a des battles, entre eux, il y a des battles entre jumeaux et entre couples de jumeaux, un peu sur le côté comme tous les frères et sœurs de « ouais, mais c'est injuste parce que nous, il fallait absolument qu'on mange un fruit au goûter, oui, mais c'est injuste parce que vous êtes beaucoup plus cool avec eux, parce qu'ils sont beaucoup plus sur les écrans que nous, nous on avait... » Et ce qui est vrai, parce que les écrans, tu lâches l'affaire au bout d'un moment, ou en tout cas au début, tu avais dit non, c'était avant d'avoir des enfants, hein, que tu dis non totalement. Mais après, comme même quand t'acceptes, tu vas leur mettre des applis pédagogiques, tu tentes le truc intermédiaire, et puis c'est vrai qu'avec le temps et les grands qui ont des téléphones, tu lâches un peu l'affaire, alors, parce que ça t'arrange quand t'as 8 heures de voiture, un train à prendre, ou que t'attends 1h30 chez le médecin. Et puis tu lâches l'affaire tout court à la maison quand t'as pas fini de bosser et qu'ils jouent, mais que ça t'arrange parce que pendant ce temps-là, t'es au calme. Alors il faut être aussi honnête. Moi, je suis honnête vis-à-vis de moi-même, ça m'arrange. Mais c'est un conflit tout le temps. Et il y a du coup ce conflit entre eux de l'évolution de nous, notre attitude de parents. Ouais, qui a évolué avec le temps. Et puis entre eux, parce que ça se dispute tout le temps pour... les trucs de tout, comme tout le monde, c'est à moi la salle de bain, t'as laissé traîner ça, ramasse, qui est venu dans ma chambre, qui a touché à ça, qui a osé faire ça. Moi j'avais dit que c'était moi, il l'a fait avant moi, j'avais dit le premier que ce serait moi. Enfin, tu vois, les trucs tous les jours, les mêmes histoires, quoi.
Pour tout et rien.
Alors chez moi, c'est un joyeux bordel, clairement. Et heureusement que je l'ai accepté, parce que petite, j'étais maniaque. Vraiment? Ah ouais. Mais je suis devenue plutôt bordélique. Donc en fait, dans la vie en général, je suis jamais modérée, mais pour rien. Donc c'est très révélateur. Si tu veux, c'est très révélateur, je suis dans l'excès tout le temps de tout. Et là, heureusement que c'est cet excès-là, parce qu'avec des enfants, faut accepter que ta maison soit pleine de couleurs, de cris, de coups de crayon sur les murs, de joie, de jouets qui traînent, de Lego sur lesquels tu marches et qui te défoncent les pieds. Enfin voilà. maintenant de fringues que tu retrouves pas parce que ta fille te les a empruntées en même temps que tes baskets, de lessive en retard, de mail en retard, de tout en retard tout le temps, de frigo vide alors que t'as 4 enfants et tu dis bon, elle est dans les placards, ok, elle est concassée de tomates et du thon en boîte, c'est super, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, tu fais comme tu fais, tu gères. T'es obligé en fait de t'adapter, d'essayer de te dire bah finalement c'est plus rigolo au quotidien plutôt qu'une vie très carrée, très rangée où tout est prévu et anticipé. Moi je trouve ça au contraire très anxiogène que tout soit anticipé. Tu vois, le côté les vacances de l'année prochaine sont réservées, on sait, on a l'itinéraire, j'ai la checklist de la valise à faire, ça m'oppresse. Tant pis, je préfère à l'arrache et du coup j'aurais oublié la moitié des trucs, mais je serai dans l'excitation. Et ça, rien ne vaut ça. Ouais.
Comment vous vous organisez avec ton mari pour la gestion quotidienne, toi avec ton job, lui...
Il est infographiste, mais du coup beaucoup en télétravail.
Okay, donc
et, et du coup principalement père au foyer, quoi. C'est pas à temps plein, heureusement. Bah, notre souci, c'est qu'il n'y a pas de journée type. Donc justement, on s'organise pas trop, on s'organise mais à l'arrache.
Ouais.
Parce que typiquement, j'ai pas trop d'horaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas deux journées identiques et je ne sais jamais à quelle heure exactement je vais rentrer. Je peux être partie à 6h un matin, le lendemain je peux partir à 10 mais rentrer trop tardivement, avoir des problèmes de transport parce qu'on vit loin de Paris, avoir des choses de dernière minute parce que moi mon métier fait que bah là les tournages, là j'ai des dates qui viennent de se caler, donc des émissions à préparer, donc des réunions qui se rajoutent la semaine prochaine. Donc, 3 jours à totalement débloquer pour être totalement libre pour mes tournages, ce qui implique de décaler tout ce qui était prévu, que ce soit en famille ou professionnellement.
Ouais.
Tout bouge tout le temps. Alors après, ça fait plus de 20 ans que moi, ça marche comme ça. Et c'est comme ça que je me sens vivante aussi. Je crois qu'en même temps, c'est ce que j'aime faire et je ne saurais rien faire d'autre.
Ouais. Donc il y a toujours quelqu'un qui prend le... Enfin, c'est pas prendre le relais d'ailleurs.
Bah si, du coup, le papa gère tout le temps.
C'est le papa qui gère ou tu peux demander parfois aux grands d'aller récupérer les petits.
Exactement, parce que le lycée est en face, donc les grands peuvent aller chercher les petits. Mais on habite loin de la ville, on est dans un tout petit village. Donc de toute façon, il faut une voiture, donc un adulte pour rentrer.
Okay.
Ou le bus, mais pas pour les petits. Enfin bon, bref. Mais j'ai cette chance d'avoir au cas où ma maman, mon papa, ma
sœur. Qui sont dans le coin.
Ouais, s'il y a un souci, j'ai toujours quelqu'un. Et là, heureusement, parce que combien de fois c'est arrivé de dire « Non, non, je serai à l'école ce soir. » Et puis, bah, 4h15, t'es toujours bloqué à Paris, ce qui implique 1h30 de route. T'es toujours pas parti. Enfin, 4h30, t'y seras pas. Là, c'est pas possible. Donc, mais c'est des choses de dernière minute. C'est « Allô, maman, tu peux être à l'école dans un quart d'heure. Ah, t'es en train de faire des courses. Tu peux laisser le caddie, tu peux le laisser tomber et y aller. Merci, maman. » Là, tu es obligée de... Heureusement que je peux compter sur les gens que j'aime, quoi.
Ouais. Tu culpabilises parfois par rapport à ça ou c'est rentré dans la routine de tout le monde et il n'y a pas de raison
Je culpabilise encore, mais alors beaucoup moins qu'avant.
Je te demande ça plus parce qu'il y a cette pression aussi sur la mère.
Tout
qui,
le temps.
Qui, sa carrière doit passer un peu
mais moi, au second plan. Ma carrière passe après, mais mon métier en lui-même, de toute façon, la quintessence, l'ADN de mon métier fait que... C'est pas des horaires fixes, c'est pas des journées types. La seule chose, c'est que je refuse quand c'est des choses le soir ou qui ne font pas partie de mon métier, qui sont des parallèles de mon métier. Ouais. C'est-à-dire des mondanités tous les soirs, des trucs en plus, des... Combien de fois on me propose en disant « Mais si, c'est bien, parce qu'au moins on ne verra ici ou là, mais je m'en moque qu'on me voit ici ou là. »
Bah, tu sais où sont tes priorités par rapport
Oui, mais je préfère manger une... c'est comme dans la BD, je préfère manger une pizza avec mes gamins dans le canap que d'aller boire 3 coupes de champagne dans l'endroit mondain à la mode, tu vois. Mais la seule chose, c'est que tu as raison sur la culpabilisation et le poids qu'on fait porter aux femmes, parce que moi je reçois encore des messages disant quand j'étais en matinale radio notamment, même encore là, bah faire ta belle à la télé ou partir tôt le matin, c'est pas la place d'une mère, elle doit emmener ses enfants à l'école. Ou c'est facile d'avoir 4 enfants et que ce que tu dois gagner, tu dois avoir 3 nourrices à domicile, jamais préparer un repas et pas avoir changé de couche de ta vie. Ça, j'ai eu enfin typiquement, parce que je vois, c'est comme ça, un peu caricatural, mais j'ai eu ce genre de message très rarement, parce que sur les réseaux, c'est toujours de la bienveillance et j'adore échanger avec les gens. Et ça arrive, et parce que c'est révélateur quand même d'une pression sociale. Mais tu peux pas et bosser et emmener tes enfants à l'école le matin, ne pas les mettre à la cantine pour qu'ils mangent bien cool chez toi tranquille, aller les chercher à 16h, faire les devoirs. Ou alors tu ne fais que ça, ta vie est celle d'une vie de maman qui implique que t'es dispo tout le temps, mais même chez toi ou pour une autre activité, il y a pas de temps pour toi. Mais c'est vrai que je culpabilise encore suffisamment pour pas m'accorder du temps à moi.
Ouais.
Jamais je vais accepter. Là, par exemple, ma mère me proposait, puis il y avait des trucs, cours de yoga à 18h le mardi, je crois. Mais c'est pas possible pour moi. Le 18h le mardi, les enfants sont sortis. Je vais pas partir pour aller au yoga, quoi. Mmh. Ils ont besoin de moi, il y a des devoirs, des machins. Est-ce que je culpabilise ou est-ce que j'en ai juste pas envie? Il y a un peu les deux. Parce que vraiment, moi, dès que je bosse pas, j'ai qu'une envie, c'est de les retrouver.
Ouais.
Mais je pense qu'il y a un peu des deux quand même, parce que je me sentirais coupable quand même. Si je prends du temps pour moi, c'est dans ces cas-là, trouver une solution pour que ce soit sur leur temps scolaire.
Et alors, qu'est-ce que ça a changé pour toi, la maternité ?
La maternité, je crois que ça change tout. Bah, ça change aussi ça change le sens que tu donnes à ta vie, ton nombril qui se déplace, tu fais des choix de vie en pensant à eux. Ça te fait découvrir... une dose d'amour qui est insoupçonnée, enfin, ça te fait voir tout différemment en fait. Un truc que tu ne pouvais pas anticiper. Ouais. Dans l'amour, les angoisses, dans tout, tout est plus fort, tout est exacerbé, c'est inimaginable. Tu peux pas, même si tu te projettes, disant j'adorerais donner la vie, tu peux pas projeter ça et anticiper ça du tout. Donc ça change tout, ça change même après très concrètement même ton le regard sur ton corps que tu te portes. Parce que tu te dis que ton corps a été utile à quelque chose. Alors moi encore plus en me disant autre chose que juste à défiler en bikini pour Miss France, tu vois. Mais ton corps est utile à quelque chose, cette fierté de pouvoir donner la vie, donc de l'avoir portée, de l'avoir donnée, ou de pouvoir nourrir ton enfant. T'as un autre regard sur ton corps, finalement... Même avec les cicatrices de la grossesse, les vergetures ou ce qu'il en reste, ça donne un sens complet, quoi. Tu te découvres, t'as l'impression d'avoir enfin donné un sens à tout. Et tu te dis, je crois que je peux... Après ça, je pourrais jamais rien faire d'aussi beau, je pourrais jamais rien faire de mieux. C'est un peu ça. Après toi, après vous... Ça peut pas être... ça y est, c'est bon, quoi. J'ai coché le top du top du top du top de ma vie, quoi.
Ouais. On va passer aux petites questions de fin d'épisode.
Ouais.
C'est quoi pour toi être une maman picarde ?
Une maman picarde ? C'est juste peut-être moi le cadre de vie, le choix de vie qu'on fait en étant en Picardie. Une maman picarde, c'est simplement... J'allais dire que nous, c'est de pouvoir sortir de la maison, d'être en pleine forêt, sans personne, de découvrir une faune, une flore qui change tout le temps, d'être à l'air pur, de découvrir des sentiers ou des endroits insoupçonnés tout le temps et encore maintenant, alors qu'on y vit depuis un moment. Et puis, qui dit maman picarde, dit maman entourée de sa propre maman picarde et de sa famille picarde, donc d'être dans un clan familial, et ça, ça n'a pas de prix, quoi.
Quel est ton endroit kids-friendly préféré en Picardie ?
Mon endroit kids-friendly préféré, il y en a pas mal. Ça évolue beaucoup parce qu'il y a plein de changements. Là, samedi, pour leur anniv, on va découvrir un nouvel endroit. C'est pas Your Escape Game, mais justement, c'est tu voyages dans le temps. Ça s'appelle Experience Park. Et donc, c'est ce genre d'endroit comme ça. Moi, j'adore, c'est découvrir. Mais kids-friendly dans les environs, honnêtement, le truc, c'est que c'est kids-friendly partout.
Ouais.
Parce que tout est fait pour les familles partout, tout le temps. Je veux dire, même un resto, t'as le choix, tu sais où ils pourront se lever, bouger, machin. Parce que pour moi, le pire avec des enfants, c'est ça, sinon c'est le resto. Parce que je trouve aller au resto pendant 2 heures avec un gamin, à rester à table, il n'y a pas pire pour un gamin. De trouver des restos où ils peuvent, où ça peut être cool, ça déjà, c'est le truc de base en famille, quoi.
Et quels sont tes projets rien que pour toi et ceux prévus en famille ?
Les projets rien que pour moi. J'ai toujours plein de projets, mais parce que j'ai ce besoin de penser à plein de trucs pour... parce que j'ai besoin d'être un peu dans la folie, que ça m'excite au quotidien, de me sentir vivante encore. C'est un souci, de rien faire, ça me fait peur. Mais ça me fait peur parce que... Pas pour la peur du lendemain, parce que je pense que maintenant, à 42, je suis plutôt du genre à dire à être très optimiste. Mais j'ai plein de projets avec le groupe M6 et j'espère que nombre se concrétiseront, notamment en animation de certaines émissions dont je rêve. Donc on verra bien. Revenir à la radio, parce que ça me manque terriblement, vraiment. Et j'aimerais bien voyager beaucoup plus. Maintenant que j'ai arrêté, en revanche, la matinale radio, ça libère quand même d'un quotidien parisien. Je peux ne pas venir à Paris tous les jours et peut-être voyager un petit peu plus, accepter des défis. Là, je vais partir bientôt avec ma sœur sur un raid, faire ce genre d'aventure, tu vois. Profiter de ce genre d'aventure en me disant... Bah c'est maintenant, on sait pas, 6 mois ça veut dire quoi dans 6 mois, qu'est-ce que je... ça se trouve je pourrais pas dans 6 mois, ça se trouve faut profiter maintenant, encore plus savourer l'instant présent, et en famille la même, savourer tout le temps, la moindre occasion de bouger, de pouvoir faire un truc, on vient de découvrir le Puy du Fou, j'ai trouvé ça incroyable, j'étais tellement surprise, mais j'ai passé ma journée à pleurer, à rire, à être incroyable, du coup on y retourne, tu vois, de dire les trucs qu'on n'a pas vus, vous vouliez voir, bah on retourne au Puy du Fou, allez, tu vois. De partir, bref, tu vois, de prendre soin de moi aussi, de se dire de pas culpabiliser, de pouvoir partir en amoureux, peut-être un week-end thalasso, des trucs, juste un spa en amoureux, au moins un dîner, de se prendre moins la tête quand même, en se disant, faisons, profitons, sans faire attention à ce que ça peut impliquer. Alors j'entends quand... pas pour un truc de grave, mais sans penser à ce que l'autre pourra dire ou à... Parce que moi, mes enfants, s'ils sont avec mes parents, je vais pas m'inquiéter 2 secondes, on va pas culpabiliser de se retrouver aussi tous les deux ou de partir en famille en se disant « Ouais, c'est peut-être un peu osé parce que c'est tous les sous de côté ou machin. » Bah, c'est pas grave. Là, maintenant, on va kiffer avec ça. Bah, allez, go, on y va. Tu vois, c'est de moins se prendre la tête. J'ai pas envie de me projeter en étant pessimiste. Je suis de nature très positive, donc je vis en pensant ça chaque jour. Et j'ai une amie qui dit toujours, il faut penser comme un proton, penser positif. Et c'est vrai. Et elle est là, et je pense que ça, celui-là, il est rigolo, mais c'est vrai que c'est toujours ça. C'est pas toujours facile, mais quand tu vois ce que ça attire chez l'autre de sourire ou d'essayer d'être positive... Je me dis qu'en fait, dès que tu t'enfermes dans un côté un peu aigri ou d'oublier la politesse, de te renfermer, de ne pas être agréable avec les gens, c'est un cercle vicieux qui te pourrit ta propre vie. Donc j'essaie vraiment de me dire, pourvu que je finisse pas comme ça, aigri à tout critiquer, à être chieuse, pourvu que je reste positive. Donc franchement, au quotidien, j'essaie d'y penser pour... réussir à continuer à respirer et à juste sourire même quand ça ne va pas. Après, c'est peut-être aussi un truc lié à mon métier, parce que l'animation radio, tous les matins, moi, la radio, c'était apporter un peu de sourire et des bonnes nouvelles, être positive. Et ça a pu être dur parce qu'il y a des matins où toi, tu ne vas pas bien. J'en ai eu plein des problèmes perso. C'est vrai qu'on ne le ressent pas forcément parce que moi, mon métier fait que je suis censée toujours avoir le sourire. Mais d'être obligée de le transmettre aux autres, bah, moi, ça m'a appris en thérapie que ça m'était renvoyé aussi et que ça me faisait du bien à moi. Donc je pense que ça s'applique dans la vie, quoi.
Merci beaucoup, Élodie.
Bah de rien. Mais c'est bon, j'ai fait ma thérapie, je sais pas, j'ai parlé, je sais même plus ce que j'ai dit, mais ça m'a fait du bien aussi. Alors bon, c'est cool, merci pour ce partage. Merci beaucoup.
Avec plaisir.
Voilà les mamas, c'est un épisode qui s'achève. Merci pour votre écoute. On se retrouve dès mardi prochain pour découvrir une nouvelle histoire qui parle de la maternité, la vraie. En attendant, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et un avis sur votre application de podcast préférée et rejoignez la communauté Hello Mamas sur Instagram. À très vite!
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.